genèveactive.ch.
J'aimerais commencer cet entretien Moudelardon avec cette citation extraite de l'amant de Marguerite Duras. « Je n'ai jamais écrit croyant le faire, je n'ai jamais aimé croyant aimer, je n'ai jamais rien fait qu'attendre devant la porte fermée. » L'attente, c'est quelque chose qui est assez présente à la fois dans la vie de Zelda Zong, celle de Marilyn Monroe, la vôtre aussi sans doute. Quel a été votre désir de départ dans cette pièce chorégraphique, en fait? Qu'est-ce que vous vouliez explorer? Le féminin, l'icône?
Ouais, le féminin, et puis ce qui m'a intéressé tout d'abord, c'était la dichotomie entre une carrière très brillante, réussie, et au contraire une vie intime beaucoup plus sombre, blessée. En fait, ça m'a beaucoup touchée. Quand j'ai lu la biographie de Marilyn Monroe, j'étais assez étonnée à quel point c'était... Il y avait une énorme différence entre ces deux aspects, et puis ça c'est des choses que moi j'ai pu expérimenter aussi dans ma vie, avec toute proportion gardée évidemment, mais donc ça m'a vraiment interpellée, et je pense déjà dans ma pièce précédente il y avait aussi une espèce de thématique autour de la dichotomie de l'image et de la réalité du vécu.
Même si cette pièce paraît plus resserrée qu'Arnica 9CH, je reviens à la figure de la tante. Elle est tout de même présente. Vous avez des stases, très souvent, des stations dans lesquelles vous attendez que ça soit silencieusement sur le plateau.
J'associe cette attente à une forme de solitude. Ça peut être l'attente d'un coup de fil ou d'une personne ou d'un amour ou d'un contrat. Ça évoque pour moi toujours la solitude.
On commence par une scène de crime avec un repérage. C'est une projection avec des bruits de flash extrêmement étendus qui strient la scène. Pourquoi avoir commencé justement cette scène en fait par cette identification sans le corps?
Moi, j'avais envie de commencer un peu à l'envers, comme dans certains films, de commencer par vraiment la fin, quand tout a déjà été joué, tout est terminé. Aussi pour faire une loupe avec la fin. Enfin, pour faire une boucle, c'est-à-dire présenter l'espace et ce qui s'est passé, et après raconter, enfin, de façon pas trop narrative, mais raconter les raisons, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à cette scène du crime, raconter qu'il y a eu d'autres formes de crime que juste la mort.
Dans cette scénographie, justement, qui sointe une certaine forme de relation avec la mort, qui revient à l'enfance, à un traumatisme, on le sait, Marilyn Monroe a des parents qui lui ont rendu la vie peu facile. Il n'en reste pas moins que vous n'installez pas ça dans une chambre noire, mais bien dans une chambre blanche, qui n'est pas une chambre des secrets, mais qui est bien réelle dans la biographie de Marilyn. Est-ce que vous pouvez nous en parler, justement, de cet espace immaculé de projection qui est très difficile d'ailleurs en plus pour une danseuse et un corps à s'inscrire dans cet espace.
Initialement, je me suis totalement inspirée de la chambre de Marilyn Monroe, qui est là où elle est morte, hein, où elle a été retrouvée morte, qui est totalement blanche, il n'y a presque pas de meubles. Certains experts ont un peu décrit ça comme les chambres de gens qui étaient des addicts, des accros. Ils disent ce genre de chambre avec très peu de décoration, c'est souvent des gens qui sont assez, qui ont un mal-être interne assez profond. Puis c'est vrai que c'est pas un endroit chaleureux, par exemple. Et puis après, donc j'ai pensé à ça, ça m'a surprise. Et après, j'ai tout de suite pensé que ça pouvait être... on pouvait utiliser les murs pour faire des projections et pour avoir des effets de lumière. Ça m'a paru un élément intéressant de scénographie, d'avoir les murs à la fois comme source d'ambiance, de couleurs, et puis de source de projection mentale. Quand j'utilise des projections, c'est souvent pour décrire plutôt des états internes, d'angoisse ou des idées noires qu'on peut avoir, que j'aime bien représenter sous une forme cinématographique.
Cette chambre blanche, j'y insiste et j'y reviens encore, il me semble que c'est aussi la chambre de l'enfance. Il en est fait référence d'une certaine manière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement par rapport à cette chambre qui est à la fois la chambre des premiers instants et puis qui a déjà un arrière-goût de sueur et de linceul en fait. Qu'est-ce qu'il en était de cette baby room?
C'est vrai que dans l'idée où Marilyn Monroe était quand même abusée enfant, je me suis dit que forcément ça se passait dans une chambre. Puis le blanc, c'est un truc un peu immaculé, donc j'apparais avec une robe rouge qui était pour moi un peu symboliquement le sang ou quelque chose comme ça, de l'ordre du crime ou d'un abus, etc. Donc,
oui, c'est aussi le premier sang de la virginité et des règles, et aussi lors de ce coït subi, quoi.
Ouais, tout à fait. Donc, c'était un peu pour marquer cette chose de l'agression, et puis en me disant que voilà, cette chambre, c'est à la fois un lieu de solitude, un lieu de crime, le lieu où on se retrouve tout seul. Ça a aussi une forme d'isolement.
Sans transition, on va passer à l'évocation du viol.
Bon, ce texte, c'est une des choses qui était assez difficile à écrire pour moi. Trouver une façon de faire en sorte que le public puisse se projeter et visualiser lui-même, en fait, de laisser assez d'ellipses pour qu'on puisse l'imaginer. J'avais pas envie que ce soit trop descriptif. Et donc après, c'est pour ça que j'ai eu aussi cette idée de mettre en scène avec... en reprenant une scène d'un film connu, mais je trouvais que ça collait assez bien comme métaphore.
Lequel ?
C'est La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock. En plus, le titre, je trouvais que c'était pas mal, parce qu'il y avait vraiment cette idée de menace, de quelque chose qui nous passe sur le corps, et on ne sait pas trop bien comment on s'en relève, finalement. Quoi.
Juste pour préciser simplement, donc, c'est la scène avec l'avion, ouais, qui vient épandre sur les champs un insecticide, et donc avec Gary Grant qui court, et donc effectivement qui va se plaquer au sol. Vous vous êtes plaqué au sol aussi par cet avion, mais avec un autre souffle et un plan qui est très insistant. Enfin, il ne fait pas 5 minutes, mais j'entends, c'est un plan assez long où on lit une douleur sur le visage.
Oui, ce qui était délicat, moi j'avais pas envie vraiment d'entrer dans une violence verbale et descriptive, ça m'intéressait pas trop. C'est pas très facile à écrire, vraiment, autant le sujet, c'est pas un sujet très facile à aborder. Donc comment le traiter délicatement, en faisant tout de même essayer de comprendre au public et à quel point ça pèse sur une vie. C'est des choses très lourdes, beaucoup s'en sortent pas, il y a des suicides, c'est quelque chose qu'on traîne très très longtemps, et il suffit d'une fois. Je pense que les gens qui ont été victimes d'abus souvent n'osent pas parler, il y a beaucoup de silence. Et moi j'avais envie d'inciter peut-être certains qui viennent, hein, parce que la proportion est énorme, hein, je crois que c'est 3 personnes sur 10. Bon, toute catégorie d'abus confondus, en partant du plus simple au viol. Donc j'avais envie de parler de ça. J'avais envie de faire un côté un peu à mi-chemin entre un polar et un road movie, et d'avoir une atmosphère beaucoup plus sombre que les films de Marilyn Monroe, qui eux sont très gays, très paillettes et tout ça, quoi. Donc c'était, je me disais, entre la scène du crime, le polar et tout ça, je pensais que je pouvais poser une atmosphère. C'était beaucoup pour poser une atmosphère d'emblée, avant de rentrer moi-même sur scène, qu'on soit déjà, et puis qu'on ait l'impression d'être au cinéma. Si Marilyn avait décidé, par exemple, de mettre fin à ses jours, ce dont je ne suis pas du tout sûre, qu'est-ce qu'on peut bien penser avant ça ? Quel genre de pensée nous amène à un suicide ? Je me suis dit, peut-être qu'il arrivait une série d'événements, puis je trouvais, comme je travaille souvent par scénettes, assez distinctes les unes des autres, ça donnait un peu une raison d'avoir toutes ces scènes, parce que j'imagine... Avant de mourir, on doit penser quand même à pas mal de choses, à des souvenirs. Est-ce qu'on a envie de s'enregistrer une dernière fois ? Est-ce qu'on a envie d'écouter un dernier disque, de fumer une cigarette ? Ça me donnait pas mal d'idées de mise en scène. Après, je pense que je n'ai pas été très littérale par rapport à ça. Comme une errance dans cette chambre, avec différentes choses qui se passent, mais... J'ai pas cherché à reproduire vraiment. Est-ce que John Kennedy l'aurait appelé 8 fois ? Est-ce qu'il y a eu des disputes ? Je sais pas. Ça, je pense, que ça ferait l'objet d'une pièce entière. Si Marilyn est morte, assassinée ou pas, c'est un autre sujet. Donc, j'ai pas voulu l'aborder. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez graphique, ouais, au début. Il y a certaines positions des bras, par exemple, qui sont très particulières aux années 50, qui sont un peu repliées comme ça, avec les doigts un peu écartés. J'ai essayé d'intégrer ça dans mon corps, ça c'était la première étape. Aussi, une position du bassin qui est toujours un peu vers l'avant. Donc j'ai essayé de retrouver ça, cette façon de bouger des années 50. Et puis après, je suis un peu allée dans une stylisation, j'aime pas trop dire ça, mais être un peu plus abstraite par rapport à ça. Et puis après, il y a la réalité de mon corps à moi d'aujourd'hui, avec mon background à moi, qui donne en fait un autre rendu. Je ne suis pas issue de cette culture du musical, quoi. Je suis issue de, effectivement, quelque chose de plus néoclassique, même si je fais du contemporain. Donc je trouve intéressant, en fait, ce collapse de choses. Moi, j'utilise l'intime pour essayer de parler d'un truc plus général. Et puis le fait que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on pense que les femmes sont plus libres qu'elles n'étaient, ce qui est vrai sur certains points, mais qui est totalement faux sur d'autres. Puis je pense que c'est assez dangereux, finalement, de penser que c'est mieux qu'avant, alors qu'en réalité, c'est juste une impression. Dans les faits, c'est la même chose que dans les années 50. Enfin, il n'y a qu'à voir le diktat esthétique dans les magazines. Ça, c'est toutes des choses qui sont apparues, je crois, dans les années 50, avec les pin-ups qui ont commencé à apparaître avec les produits à vendre. Donc, je crois que c'est là vraiment que ça a commencé à se construire. Donc, par rapport à ça, on ne peut pas dire que ça a évolué. Même, je dirais que ça a presque empiré, parce que maintenant, on va beaucoup plus loin encore plus loin dans l'image de l'objet, la femme encore plus dénudée, les références sexuelles encore plus fortes.
Qu'est-ce qui relierait pour vous, justement, Arnica 9CH et je parle d'autofiction et cette pièce, dans la démarche, dans l'approche?
Je pense que c'est un peu ce dont on a parlé au début, c'est vraiment la dichotomie entre ce que les gens perçoivent et la réalité du vécu interne. Je pense que c'est assez fondamental. Personnellement, en tant que danseuse, je peux bien voir les projections que les gens font sur moi, ou les projections que les gens font sur moi à cause de mon apparence physique, ou par rapport au fait que en soirée, je peux avoir pas mal d'humour, mais du coup, on me perçoit d'une certaine façon qui est assez loin de moi. Donc, les projections qu'on a tous, c'est quelque chose qui me fascine. Bon, moi, j'avais envie m'inspirer des années 50, mais de faire un peu une digression, un peu comme dans toute la pièce, finalement, où ça fait penser aux années 50, mais c'est pas vraiment... Donc, on a commencé à se voir, simplement à écouter de la musique, en lui faisant... Moi, je lui ai apporté des disques, je lui ai dit, écoute, ça, j'aime bien, etc. Et donc, assez rapidement, on a un peu dégagé une ligne avec beaucoup de guitare et des choses comme ça. Après, j'avais envie du polar, donc ça implique des atmosphères musicales un peu plus sombres. Comme aussi dans l'image, je pensais beaucoup à Lynch ou à des choses comme Paris, Texas. Donc forcément, ça a influencé nos choix musicaux. Aussi, depuis le début, j'avais envie de faire des reprises des chansons de Marilyn, mais de les détourner. Donc, I'm Through With Love, ça me semblait la meilleure pour moi. Et on a tout de suite, très vite, on a décidé de faire un blues.
Il y a quand même une signature corporelle qui se crée aussi.
Oui, bon, moi, j'ai une perception d'avoir plus d'autorité quand je suis sur des talons. Déjà, il y a le bruit, ploc, ploc, ploc. Après, j'ai travaillé tout le temps. J'étais dans le studio, j'étais tout le temps sur mes talons pour que ce soit complètement intégré. Et puis, forcément, visuellement, ça change la silhouette. Hein. Ça rallonge les jambes, ça cambre un peu plus le dos. Donc, c'est vrai que ça crée tout quelque chose d'assez esthétique. Après, il y a différentes chaussures avec différentes hauteurs. Évidemment, quand je danse au début, j'ai un talon un peu plus bas. À la fin, les chaussures que j'ai ressemblent beaucoup plus à celles des comédies musicales des années 50, mais ça va avec, qui est beaucoup plus un clin d'œil à ces comédies, donc là, ces chaussures paillettes, quoi. Mais celles-là, par exemple, elles sont très hautes, donc c'est très difficile de danser dessus. Après, on peut citer Audrey Hepburn ou Humphrey Bogart, Lauren Bacall, tous les gens de cette époque. Hein.
Et ça se signalait, en quelques mots pour terminer, par quel type de grammaire, de gestuelle, de présence corporelle, ce que vous en avez retenu, si on peut mettre quelques mots dessus?
Moi, le truc qui me vient à l'esprit, c'est assez graphique, ça, c'est très très esthétique, c'est beau, il y a des lumières très précises, il y a des angles, il y a une souplesse, il y a de la sensualité. Ouais, c'est en gros ce que je retiens de ça. Il y a beaucoup d'effets d'impairs, beaucoup d'imperméables. Voilà, c'est un peu ça que j'ai en tête. Genève Active.ch